27 juin 2018, déjà, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Hélène Denis avec vous. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Hélène.
La canicule s'en vient, ça a l'air.
Oui, oui. Ouais. Sortez vos piscines, sortez vos climatiseurs et préparez-vous au pire. Mais on ne se plaindra pas, on se plaint qu'il fait froid tout le temps.
Oui, mais avec 48 humidex, moi...
Oh, c'est rendu à 48?
Oui, pour dimanche, jour du déménagement. C'est ce que j'ai lu sur le site d'Environnement Canada. Là, il y a raison de se plaindre.
Oui, bon,
c'est comme l'extrême de l'extrême, ça peut être dangereux. Mais en tout cas, on va vivre ça au jour le jour.
Et puis à ceux qui vont fêter le déménagement par un déménagement, bien, soyez prudents.
Oui.
Hydratez-vous bien.
Tout à fait.
27 juin, au Canada, on souligne la journée du multiculturalisme, la journée du multiculturalisme, une des réalités de notre nation. Alors, à ceux à qui ça parle, bonne journée canadienne du multiculturalisme. Événement marquant en ce 27 juin dans l'histoire, 1893, un effondrement boursier aux États-Unis provoque la faillite de 600 banques et 74 compagnies ferroviaires. 1905, en plein cœur de la Révolution russe de 1905 sur la mer Noire, les marins du cuirassé Potemkin se mutinent, jetant par-dessus bord le commandant et les officiers. Événement qui inspira le film du même nom, le cuirassé Potemkin, en 1925. 1950, à New York, l'ONU demande d'aider la Corée du Sud face aux communistes du Nord. Washington envoie donc la marine et l'aviation. C'est le début de la guerre de Corée. 1957, publication d'une première étude en anglais, Smoking Causes Lung Cancer, première étude qui affirme le lien de causalité entre la cigarette et le cancer du poumon.
On n'était pas sûr encore.
On n'était pas sûr et ça a pris plusieurs décennies avant qu'on accepte d'être sûr, disons-le ainsi. 1967, le premier guichet automatique bancaire est installé dans la ville de Enfield Town, au nord de Londres, par la compagnie bancaire Barclays. 1975, toujours un 27 juin, le Québec acquiert sa propre charte des droits de l'homme, officiellement appelée Charte des droits et libertés de la personne. 1985, la mythique fameuse Route 66, la Route 66 aux États-Unis, est officiellement déclassée avec l'avènement des tronçons d'autoroute en ligne droite qui ne suivent pas le paysage, mais qui imposent le paysage. Donc, depuis la route 66, certains irréductibles fanatiques de cette route 66 ont décidé de conserver certains tronçons parce que c'est quand même une belle route mythique, légendaire.
J'aimerais bien ça, l'emprunter un jour.
Oui, mais avec nos rythmes pour les vacances, souvent les gens préfèrent sauver du temps et en profiter plus à la destination que de profiter du voyage.
Ça dépend des voyageurs.
Tout à fait. 1997, à Bruxelles, les représentants de 95 pays acceptent le principe d'une interdiction des mines antipersonnelles. Il était temps. 27 juin 2008, Bill Gates quitte la compagnie Microsoft pour se consacrer à sa fondation humanitaire. Et 2014, on se quitte sur cette semi-bonne nouvelle. Victoire syndicale, la Cour suprême du Canada donne raison aux travailleurs du Walmart de Jonquière qui avait été fermé 9 ans plus tôt et ordonne une réparation financière aux 190 personnes qui avaient perdu leur emploi lorsqu'ils avaient décidé de se syndiquer. On s'en souvient, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Donc, 9 ans plus tard, mais tout de même, victoire et une compensation pour ces 190 personnes.
Le Walmart existe toujours au Saguenay?
Le Walmart avait fermé dans ce cas-là. Je ne sais pas si depuis il a
ouvert. Ouais. À suivre.
À suivre.
Merci. À la une de la presse, une exclusivité, pas d'accusation contre les pollueurs. La Couronne renonce à porter des accusations contre les responsables d'un système de déversement massif de sols contaminés dans la nature, notamment parce que l'absence d'analyse des terres agricoles avant le saccage compromet ses chances de les faire condamner. Explication. Sport, temple de la renommée, la consécration pour Brodeur et Saint-Louis. Pontmercier, des kilomètres de bouchons du matin au soir. La crème des chansons de feu de camp, les flammes attirent la musique. Les explications de musiciens, dont Paul Piché. Ce sont 2 ans et demi de travail qui finissent à la poubelle. La grande enquête policière qui a mis au jour un système de déversement massif de sols contaminés dans la nature se termine en queue de poisson, a appris la presse. La couronne ne veut même pas s'essayer à porter des accusations tellement la tâche de faire condamner ceux qui saccagent les campagnes lui semble insurmontable dans le contexte actuel. Il y a eu un mort, des petits propriétaires qui se sont retrouvés pris à la gorge, des milieux naturels gravement pollués et une industrie bouleversée de fond en comble, mais personne ne sera traduit en justice. Le projet Naphtalène a été amorcé le 14 décembre 2015 par la Division des enquêtes sur l'infiltration de l'économie de la SQ, selon une déclaration sous serment déposée à la Cour et rendue publique grâce aux démarches des avocats de la presse. Une dizaine d'enquêteurs ont été mobilisés sur le dossier, selon nos informations. Rapidement, des gens du ministère de l'Environnement se sont ajoutés. La cible, une organisation criminelle qui tentait de prendre le contrôle de la gestion et du transport des sols contaminés au Québec. Grâce à des entreprises en apparence légale, l'organisation soumissionnait à très bas prix et remportait des contrats de décontamination sur d'importants chantiers de construction du Grand Montréal. Au lieu de payer un prix élevé pour les envoyer dans un site accrédité, elle les faisait disparaître discrètement. Les sols récupérés ne sont pas décontaminés, mais rapidement disposés dans des zones vierges, des terres agricoles ou des sites illégaux, causant ainsi des méfaits importants à l'environnement. Celui qu'on soupçonne d'être la tête dirigeante du stratagème est un ancien partenaire d'affaires bien connu des Hells Angels. Son avocat a obtenu une ordonnance de non-publication qui nous interdit désormais de dévoiler les noms cités dans les mandats de perquisition de la SQ. Selon nos sources, la police a connaissance de plus de 80 sites, surtout en milieu agricole, qui ont ainsi été saccagés au cours des dernières années à coups de déversements sauvages de sols bourrés de contaminants, qu'il s'agisse d'essence, de plomb, d'arsenic, de xylène ou de résidus de combustion de charbon. Un peu plus loin, à la suite de l'examen de la preuve soumise au DPCP par les policiers, les procureurs ont conclu à l'insuffisance de preuves afin de pouvoir établir la culpabilité des suspects, dit maître Jean-Pascal Boucher. Pour qu'une poursuite soit autorisée dans cette affaire, le DPCP devait d'abord avoir la conviction d'être en mesure de prouver la présence de contaminants dans les sols déposés sur certains terrains. L'absence d'accusation est un revers pour la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon, qui souhaite implanter un jour un système pan-québécois de traçabilité des sols, mais qui s'en remettait d'ici là aux policiers pour faire cesser le saccage. Des kilomètres de bouchons du matin au soir, l'heure, entre guillemets, de pointe, a duré toute la journée hier au pont Mercier entre Châteauguay et l'île de Montréal. Une première journée de grands chantiers où les files d'attente se sont allongées sur des kilomètres des deux côtés du pont. Et ce sera vraisemblablement pareil pendant les 2 prochains mois. Bruno Goyette emprunte tous les jours le pont Mercier. Il habite Châteauguay et son employeur est situé sur le boulevard Newman à La Salle, juste de l'autre côté du pont. Au fil des ans, il en a connu des fermetures partielles du pont Mercier avec déviation de la circulation sur une seule voie à contresens dans chaque direction. Dès l'annonce de la fermeture partielle du pont jusqu'en août, il savait que ce ne serait pas beau. Mais ce qu'il a vu dans l'arrondissement de La Salle en fin d'après-midi hier était sans précédent. L'entrée de la rue Early, qui donne directement accès au pont, étant réservée à la circulation des autobus, toutes les autres intersections des rues locales à proximité de la route 138 et du pont étaient bloquées par le trafic. Les boulevards Newman et La Salle, les avenues Dollard et La Fleur, les rues Elmsley et Clément étaient noirs d'automobilistes, ne sachant plus où aller. Bruno Goyette a pu observer tout cela de la fenêtre de son autobus. Pour se rendre au travail hier matin, il a pris un autobus du réseau EXO à Châteauguay qui bénéficie d'une voie réservée jusqu'au pont sur la route 138. Il a peut-être perdu 10 minutes dans la circulation dense à l'entrée du pont. Seul bémol, il n'y avait que 5 passagers dans l'autobus qui ramenait M. Goyette sur la rive sud hier. Il n'y a eu aucun effort de communication. Des maires de la rive sud ont dit dans les médias locaux la semaine dernière qui n'ont eu aucun préavis du ministère des Transports à propos des entraves prévues tout l'été sur le pont Mercier. « C'est un peu la pagaille », dit M. Goyette. Un jeune homme de 18 ans qui a été abattu en pleine rue à Terrebonne lundi soir devait passer en cour la semaine prochaine pour une histoire d'altercation qui a mal tourné à l'automne dernier dans un parc près de chez lui. Nicolas Lavoie-Cloutier, qui a reçu au moins un projectile d'arme à feu vers 21h lundi, était notamment accusé d'avoir eu illégalement en sa possession un pistolet à décharge électrique, un taser, lors d'un incident survenu en octobre dernier, au parc du Jet Bleu, tout près de son domicile, révèle un dossier de cour consulté par la presse. Il était également accusé de voies de fait, de menaces et de possession de cannabis et de haschiches dans la même affaire. Mais ses parents, atterrés, sont persuadés que cet événement n'a rien à voir avec le meurtre de leur fils en pleine rue. Les policiers nous ont dit que ça tirait et que ça courait partout. Nicolas s'est retrouvé au mauvais moment avec la mauvaise personne. C'est clair et net parce que mon fils, il n'était pourchassé par personne. C'est un petit gars qui, à 21h30, était chez lui le soir. C'était pas un courailleux, a dit sa mère Nancy Cloutier, rencontrée au domicile familial. La Sûreté du Québec, à qui l'enquête a été confiée, croit que le meurtre pourrait être relié au monde des stupéfiants, a indiqué sa porte-parole Héloïse Cossette. À compter de la semaine prochaine, Facebook aura un nouvel outil pour lutter contre les fausses nouvelles au Canada. L'entreprise annoncera aujourd'hui un partenariat avec l'agence France Presse, AFP, qui mènera des vérifications factuelles de certains contenus qui circulent sur la plateforme au pays. L'initiative arrive à point pour la campagne électorale qui s'amorce au Québec et pour celle de l'an prochain au fédéral. Pays-Bas, une attaque à la camionnette Bélier a été perpétrée hier à l'aube contre l'un des principaux groupes de presse néerlandais à Amsterdam sans faire de blessés, mais ravageant la façade du bâtiment. Il s'agit de la seconde attaque visant des bâtiments abritant des médias en moins d'une semaine aux Pays-Bas, poussant les autorités à prendre des mesures supplémentaires de sécurité autour des sièges des médias dans le pays. Vers 4 heures, une camionnette Volkswagen Caddy a foncé à deux reprises dans la façade du bâtiment qui abrite notamment la direction du tabloïd de Telegraph. La police a ouvert une enquête et, selon un communiqué de la municipalité d'Amsterdam, penche pour la piste du crime organisé. Deuxième au monde quant à la taille, après celle d'Australie, la barrière du corail du Belize a été retirée hier par l'UNESCO de la liste du patrimoine en danger. Submergé dans les eaux cristallines et turquoises des Caraïbes, ce récif corallien figurait sur cette liste depuis près d'une décennie après avoir été menacé par l'exploitation pétrolière. La barrière inscrite au patrimoine mondial depuis 1996 abrite une biodiversité exceptionnelle où se côtoient de nombreuses espèces de poissons tropicaux, d'énormes requins ou encore des tortues. Jusqu'à récemment, le Belize ne disposait pas de lois strictes en matière de protection de l'environnement, ce qui a conduit l'UNESCO à déclarer en danger en 2009 ce récif corallien. Le Parlement du Belize a finalement fait voter fin 2017 un moratoire sur l'exploitation pétrolière offshore destiné à sauver sa barrière de corail. Blue eyes, there must be a captain sign.
way down to an Alabama song. Black Betty, where you come from? Black Betty, where you come from? From Birmingham, way down to way down to an Alabama song. Black Betty had a baby.
D'entendre la chanteuse Betty Bonifaci qui reprenait la pièce Black Betty, une pièce rendue populaire par le groupe Ram Jam en 1977, mais qui n'ont pas composé cette pièce. La pièce à l'origine qui date des années 30 et elle est attribuée à Huddy Ledbetter. C'est donc un chant issu des chants esclavagistes afro-américains. Donc Betty Bonifaci qui est intrinsèquement liée à un certain scandale dont on va pouvoir voir plus de détails pendant la section culturelle de cette émission.
À la une du Devoir de ce 27 juin 2018, l'école à la maison chez les acidiques semble réussir. Et pour accompagner cette nouvelle concernant la scolarisation à la maison, on voit une photo de Rachel Kahan, mère de 14 enfants, présente à l'évaluatrice Bev Miller les cartables de ses enfants à qui elle enseigne à la maison. Environnement, le banc des Américains sera protégé. Ottawa et Québec auront tous les deux leur mot à dire sur ce territoire marin de 1000 km². FIJM, Festival international de jazz de Montréal, la chance rare d'une chanteuse rare, j'ai toujours eu l'occasion de travailler sur la musique en premier, explique Cécile McLaurin-Salvant à Guillaume Bourgault-Côté. Protectionnisme, le plan d'aide d'Ottawa se fait attendre. Monde, la Cour suprême des États-Unis valide le décret migratoire de Donald Trump. Pour la première fois en plus de 20 ans, le gouvernement du Québec et celui du Canada ont convenu d'établir une zone de protection marine dans le Saint-Laurent. Le Devoir a appris qu'ils vont annoncer conjointement cette semaine la protection d'un territoire marin de 1000 km², nommé le banc des Américains, situé à l'est de la Gaspésie. Mais il faudra en faire beaucoup plus pour respecter les engagements du Québec en matière de protection des milieux marins. Au moment où le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent fête ses 20 ans, Ottawa et Québec ont finalement réussi à s'entendre pour la création d'une nouvelle ère de protection du milieu marin, cette fois dans la portion québécoise du golfe du Saint-Laurent. Selon les informations obtenues par Le Devoir, la ministre de l'Environnement du Québec, Isabelle Melançon, doit prendre part à cette annonce qui aura lieu probablement jeudi ou alors vendredi, en compagnie de représentants du gouvernement fédéral. Le cabinet de Mme Melançon a d'ailleurs confirmé au cours des derniers jours que cette annonce implique plusieurs partenaires. Le banc des Américains désigné comme site d'intérêt par le gouvernement fédéral en 2011 devrait obtenir un statut qui implique que Québec et Ottawa auront leur mot à dire dans les mesures de protection mises en place. Pour le fédéral, ce secteur deviendra une zone de protection marine, une désignation qui vient avec plusieurs règles, dont l'objectif est de préserver l'essentiel de l'écosystème marin et de sa biodiversité. Après 2 ans de scolarisation à la maison, un premier groupe d'enfants de la communauté assidique a passé avec succès les examens de fin d'année de la commission scolaire English Montréal. Si les résultats sont encourageants, ils démontrent toutefois qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire, constatent les leaders de la communauté. J'aurais préféré que les résultats soient un peu plus élevés en maths, surtout, mais l'examen était assez difficile, affirme Jacob Maman, directeur de l'Académie Yeshiva Toras Moshe, qui offre du soutien scolaire aux jeunes de la communauté assidique ayant opté pour l'école à la maison. C'est quand même une bonne nouvelle, ajoute-t-il, parce que, au-delà des chiffres, ça nous permet de voir où sont nos faiblesses et de réajuster le tir pour les années à venir. Quelques 70 élèves de 5e année du primaire ont passé leurs premiers examens officiels dans les locaux du centre culturel, sous la supervision du personnel de la commission scolaire. La quasi-totalité d'entre eux, 96%, ont réussi l'examen de français langue seconde. La moyenne à cet examen était de 84%. En anglais, les notes sont un peu moins bonnes. Ainsi, 4 élèves sur 5, 82%, ont obtenu la note de passage avec une moyenne générale de 64%. Honnêtement, je suis très surpris que le taux de réussite en français soit meilleur qu'en anglais. Ça démontre que les enfants sont très motivés à apprendre le français, confie Abraham Eckstein, l'un des porte-parole de la communauté assidique à Montréal. Jacob Maman apporte une nuance, rappelant que l'examen de français langue seconde est beaucoup moins exigeant que celui d'anglais, qui est considéré comme la langue première, même si pour ses enfants, il s'agit plutôt d'une troisième langue, après le yiddish, parlé à la maison, et l'hébreu, qu'ils étudient dans les textes religieux. Tant du côté de la commission scolaire que dans la communauté assidique, on espère pouvoir poursuivre cette collaboration dans les prochaines années. Or, la loi qui encadre l'école à la maison, adoptée à Québec l'automne dernier, entrera en vigueur dès septembre, ce qui risque de forcer les familles qui font l'école à la maison à se tourner vers une commission scolaire francophone pour obtenir du soutien. Des chercheuses de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal vont suivre les communautés assidiques dans leur projet d'éducation à la maison pendant les 3 prochaines années. Le règlement P6 est devenu inutile. L'administration Plante envisage de l'abroger. Plusieurs articles du règlement P6 ayant été invalidés par les tribunaux, le service de police de la Ville de Montréal a cessé de l'appliquer. L'administration Plante envisage maintenant d'abroger ce règlement qui avait été adopté dans la controverse en 2012 pour contrôler les manifestations. Projet Montréal demande depuis 2013 l'abrogation du controversé règlement P6. Maintenant au pouvoir, l'administration pourrait concrétiser ce souhait. Rappelons que le règlement P6 avait été adopté en 2012 sous l'administration de Gérald Tremblay, en plein printemps étudiant. Il obligeait les manifestants à fournir leur itinéraire et interdisait le port d'un masque lors des rassemblements. Ces mesures avaient été vivement décriées. En 2012, Montréal avait été le théâtre de 828 manifestations. Leur nombre a chuté au cours des années suivantes. En 2017, le SPVM en a dénombré 319. Dans la section éditoriale, « Mon pays, ce n'est pas un pays, point », une lettre de Geneviève Chartrand signée à Montréal le 25 juin 2018. Depuis 1995, au lendemain de la fête dite nationale, je précise celle du 24 juin, je suis déprimée. Et pour cause, car mon sentiment d'appartenir à un pays a disparu. Je me sens apatride. Le 1er juillet prochain, dans ce pays confédéré du Canada qui m'a volé mon hymne national et l'a traduit en anglais à l'ouest et à l'est de ma province, on va fêter la fête du Canada. Ici, ce jour-là, on va déménager. Vigneault, je n'y crois plus. Vigneault, il me reste 2 pays à oublier. Mais j'aimerais tout de même demander aux Québécois de s'assumer et de rebaptiser cet événement du 24 juin en lui donnant le nom de fête provinciale. Cessez d'être assis entre 2 chaises. Le maire de Toronto soutient que sans une aide accrue des gouvernements fédéral et provincial, la métropole ne pourra accueillir davantage de demandeurs d'asile dans son réseau actuel de refuges. Dans une lettre transmise à Ottawa lundi, John Tory lance un appel à l'aide pour soutenir financièrement et physiquement la ville. Avec maintenant 3 000 demandeurs d'asile dans les refuges municipaux, les structures d'accueil ont atteint leur pleine capacité, selon lui. Et pour terminer, quelques 10 000 combattants du groupe État islamique et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique se trouvent actuellement sur le continent africain, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, après une réunion de la coalition internationale anti-djihadiste. Il a appelé à une synergie entre les pays africains et la coalition internationale dirigée par les États-Unis, dont les directeurs politiques étaient réunis à Skhira, près de Rabat. Or, Syrie, Irak et Afghanistan, le continent africain, déplorent subir le plus grand nombre d'attentats et que le nombre des victimes soit plus grand que sur le continent européen, a insisté M. Bourita au cours d'un point de presse avec Brett McGurk, l'envoyé spécial du président Trump.
Vous écoutez le quotidien des quotidiens.
Pendant que les bateaux font l'amour et la guerre avec l'eau qui les broie, pendant que les ruisseaux dans le secret des bois deviennent des rivières, moi je t'aime, moi je t'aime.
Pendant que le soleil, plus haut que les nuages, fait mes nuits et tes jours, pendant que ces pareils poursuivent leur voyage, chargés d'autant d'amour. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime.
Pendant que les grands imagine des ailes au coin secret de l'air, pendant qu'un soleil blanc au sable des déserts dessine des margelles. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime.
Pendant que les châteaux en toutes nos Espagnes se font et ne sont plus, pendant que des chevaux à cavaliers perdus traversent des montagnes, moi je t'aime, moi je t'aime.
Pendant qu'un peu de temps habite un peu d'espace en forme de deux cœurs, pendant que sous l'étang la mémoire des fleurs dort sous son toit de glace, moi je t'aime,
moi je t'aime.
Ça fait déjà 56 ans que Gilles Vigneault a composé cette chanson, pendant que, composée en 1962, parue en 1963 sur son second album et intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2006, pièce qui a été reprise par une multitude d'artistes, notamment Louise Portal, Fabienne Thibault, Monique Lérac, Pauline Julien, récemment Louis-Jean Cormier, et ce qu'on vient d'entendre, c'est tiré de l'album Retrouvailles de Gilles Vigneault, paru en 2010. C'était un duo, bien sûr, le grand Gilles Vigneault, avec Richard Desjardins au piano.
À la une du Journal de Montréal, déchets toxiques entre en libre-service. Des entrepreneurs et la ville de Thetford Mines se servent sans protection dans ces montagnes qui contiennent 40 % d'amiante sans que Québec intervienne, dévoile un rapport. Les meilleures crèmes solaires sur le marché. Hockey, Saint-Louis et Brodeur parmi les immortels. Et finalement, toujours à la une du Journal de Montréal, travaux au pont Mercier, l'enfer cet été sur la rive sud. Oui, Jean-Sébastien avait fait tourner une chanson concernant Slave. Je pense que c'est tiré du spectacle Slave par Betty Bonifaci, et je vais vous en reparler un peu plus tard dans le culturel, mais quand même, à la page 2 du Journal de Montréal, on en parle, et je vous lis ce qui suit. Un groupe de manifestants a protesté hier en début de soirée devant le Théâtre du Nouveau Monde à Montréal contre le spectacle Slave de Robert Lepage, mettant en vedette Betty Bonifaci. Slave est une odyssée théâtrale à travers des chants d'esclaves. Certains estiment que les chants d'esclaves n'ont pas été écrits pour que puissent en profiter les Blancs. Ils dénoncent le fait que Lepage et Bonifaci soient tous les deux Blancs. Dans une déclaration diffusée sur Facebook, Robert Lepage et Betty Bonifaci ont réagi à la controverse. Oui, l'histoire de l'esclavage, sous ses multiples formes, appartient d'abord à ceux et celles qui l'ont subi, et à tous ceux qui en ont hérité, peut-on lire. Mais cette histoire a été écrite par les oppresseurs autant que par les opprimés. Il laisse le soin au public de se faire sa propre idée en assistant au spectacle. Molson veut lancer une bière à base de cannabis. Les producteurs d'alcool savent que le pot aura un impact sur leurs ventes. Molson Coors songe sérieusement à faire son enquête dans le secteur du pot. Le géant de la bière souhaite développer des boissons, dont des bières à base de cannabis. Au cours des derniers mois, Molson Coors a discuté avec plusieurs importants producteurs de cannabis au pays dans le but d'investir et de développer des boissons infusées à base de cannabis. Dans une note aux investisseurs, le patron de Molson Coors, Mark Hunter, dit avoir mis sur pied une équipe chargée d'explorer activement les risques et les opportunités reliées au marché du cannabis. Hier, chez Molson Coors, personne n'a voulu discuter du dossier. Alors que les ventes de bière sont en constante baisse depuis plusieurs années au Canada, les grands brasseurs cherchent de nouvelles avenues de croissance. Il faut dire que la légalisation du cannabis à des fins récréatives le 17 octobre prochain aura un impact sur la vente de produits alcoolisés au pays. Des déchets d'amiante dans l'asphalte. Un rapport de Québec montre que des entrepreneurs et la ville utilisent des résidus fortement contaminés. Québec sait depuis des années que les résidus des mines d'amiante sont contaminés, mais laisse les entrepreneurs et la ville de Thetford Mines les utiliser sur des chantiers sans aucune protection. C'est ce que révèle un rapport produit par le ministère de l'Environnement en 2013 qui n'a jamais été rendu public. L'Association de la santé publique du Québec a obtenu le document et l'a transmis au journal. Le procédé est bien connu de la FTQ Construction. Ils en ont étendu partout, comme de la crème, en dessous du pavé et de l'asphalte, dans les fondations de maisons, les entrées de garage. Il y en a partout, décrit Simon Lévesque, responsable de la santé et de la sécurité du syndicat. C'est totalement scandaleux. Comment des représentants de l'État peuvent fermer les yeux là-dessus, dénonce Gilles Mercier, ex-inspecteur au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et président de l'Association des victimes de l'amiante du Québec. Un jour, ils vont être accusés de négligence, prévient la docteure Soulière. Toutes les formes d'amiante, y compris le chrysotile, peuvent causer le cancer du poumon et du larynx, du mésothélium et de la fibrose pulmonaire, entre autres maladies, indique l'OMS. La FTQ Construction souligne que l'amiante est la première cause de décès au travail au Québec. Il est inutile de se ruiner pour se protéger du soleil. Des crèmes solaires moins chères sont aussi efficaces, selon une étude américaine. Avec l'arrivée de la canicule la fin de semaine prochaine, il est important de se protéger contre les rayons du soleil afin d'éviter un vieillissement prématuré ou le cancer de la peau, qui est la forme de cancer la plus courante au pays. L'organisme américain de protection des consommateurs, Consumer Reports, a testé un peu plus de 70 crèmes solaires. Il a évalué si le produit protège adéquatement contre les rayons UVA et UVB, en plus de vérifier s'ils offrent la protection FPS promise. Plusieurs de ces écrans solaires se trouvent aussi sur nos tablettes au Canada. Parmi les meilleurs choix, la marque La Roche-Posay à 30 $ et le contenant ainsi que la marque Maison de Walmart à 7 $. Il ne faut pas se fier au prix, à la beauté de l'emballage ou à des buzzwords de marketing du genre naturel ou puissance ultime, indique Olivier Bernard, mieux connu sous le nom de pharmacien. Pour le dermatologue spécialisé en mélanome et cancer de peau aux choux de Québec, Joël Claveau, l'important reste tout de même de mettre de la crème solaire, peu importe celle qu'on choisit. Mais il ne s'agit pas de la seule mesure à prendre pour se protéger du soleil. La crème solaire crée parfois un faux sentiment de sécurité. On pense que c'est un bouclier, mais les chapeaux, les vêtements anti-UV et les parasols aussi sont importants, insiste le spécialiste. Alors, les meilleures crèmes solaires, La Roche-Posay Antelios XL Melt-In Lotion FPS 60. C'est la première au palmarès des crèmes solaires en lotion testées par Consumer Reports. Banana Boat Sun Comfort FPS 50+, en vaporisateur, la meilleure crème solaire en vaporisateur testée en vente chez nous. Equate Walmart Écran solaire vaporisation continue Sport FPS 30. Une excellente crème solaire en vaporisateur est la moins chère de celles que l'on trouve au Canada. Et Avino Protect plus Hydrate Lotion FPS 30, une autre crème solaire en lotion recommandée par Consumer Reports. Environ 1500 personnes ont dû être évacuées du site de la fête nationale samedi à Lebel-sur-Quevillon, au nord du Québec, parce que leur immense feu traditionnel laissait de gros tisons partir en vrille au gré du vent. Ce méga feu, qui se tient depuis 1976, a été allumé comme toujours à minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Le maire Alain Poirier a vite constaté qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il a évacué le site vers minuit et demi. Le problème était la présence de mélèze au sein du mélange de bois. Les bénévoles qui sont allés chercher le bois savaient qu'il y en avait, mais ignoraient que ça brûlait si intensément. Les deux camions de pompiers qui étaient déjà sur place ont apaisé le feu de joie. Pier One Imports va quitter le Québec. Le détaillant américain fermera tous ses magasins en sol québécois dès le 4 août. C'est une décision corporative, c'est une restructuration à la grandeur du pays, a indiqué hier au journal une employée de Pier One Imports. Encore sous le choc, on nous a informé que tous les magasins allaient fermer au Québec, a fait savoir une autre employée du magasin des Galeries de la Capitale à Québec. Le détaillant américain, qui compte 6 magasins au Québec, est déjà en mode liquidation. Un avis de licenciement collectif déposé au ministère du Travail et de l'Emploi le mois dernier indique que Pier One Imports cessera définitivement ses activités au Québec le 4 août prochain. Comme bien des joueurs dans le secteur du commerce de détail, Pier 1 Imports a vu ses ventes fortement diminuer au cours des dernières années. La montée en popularité de certains détaillants en ligne comme Amazon et Wayfair lui a fait mal, créant de fortes pressions sur ses marges de profit.
I don't know, c'était le titre de cette pièce, une des deux nouvelles pièces que Paul McCartney nous a offert au courant des derniers jours. L'autre pièce qui s'intitule Come On Me, ça paraîtra sur le prochain album de Paul McCartney, Egypt Station, qui paraîtra au mois de septembre.
Mmh.
Les journaux régionaux attaquent d'un bambin le chien euthanasié par la SPCA, c'est dans le droit Daniel Leblanc. Le chien de type pitbull qui a attaqué un bambin de 2 ans la semaine dernière dans le secteur Elmer a été euthanasié mardi après que la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de l'Outaouais ait jugé à la suite d'une évaluation qu'il s'agissait d'un chien dangereux. Le propriétaire de la bête avait lui-même consenti à ce qu'on procède à l'euthanasie, ayant signé quelques heures plus tôt un formulaire d'abandon de l'animal. Le chien, rappelons-le, s'est enfui de la cour d'une résidence de la rue des Forages vendredi dernier et a bondi sur l'enfant qui se trouvait dans une poussette lors d'une marche avec sa mère. Le petit garçon a subi des blessures au visage et au bras gauche. C'est la mère aidée de voisins qui lui ont porté secours qui a réussi à maîtriser l'animal pour mettre un terme à la sauvage agression. Par ailleurs, l'incident impliquant un chien de type pitbull vendredi pourrait réactiver la réflexion sur l'encadrement des chiens potentiellement dangereux au conseil municipal. Le conseiller et membre de la commission sur le transport, les déplacements durables et la sécurité publique, Pierre Lantier, croit qu'une discussion à ce sujet pourrait avoir lieu. Il en était question hier dans le droit et il en est toujours question aujourd'hui puisqu'il y a une espèce de suite et de conclusion. L'organisation du Blues Fest d'Ottawa a obtenu l'aval d'Environnement Canada pour déplacer le nid et les œufs de Pluvier Kildir, un oiseau migrateur protégé qui se trouvait à l'endroit où doit être érigée la scène principale du festival. Visiblement soulagé que le dossier ait pu se régler rapidement, le directeur général de l'événement, Mark Monahan, a brandi le permis délivré par le ministère fédéral lors d'un point de presse mardi en fin d'après-midi. Les 4 œufs seront déplacés une 20aine de mètres plus à l'ouest sur le site des Plaines-le-Breton, à un endroit où a été aménagé un autre nid avec de l'herbe, des roches et de la terre. La délicate opération devait en principe avoir lieu mardi en soirée si tout se passait comme prévu. On a trouvé quelqu'un qui provient de Mendin, une municipalité à mi-chemin entre Toronto et North Bay, et qui a une licence du fédéral pour faire ça avec les oiseaux migrateurs. Et en passant, le Blues Fest aura lieu du 5 au 15 juillet. Dans le soleil, Élisabeth Fleury, la pénurie d'épipènes pas encore résorbée. L'été commence et la pénurie d'auto-injecteurs épipènes essentiels pour les personnes souffrant de graves allergies n'est toujours pas réglée. En raison de retard dans la fabrication du produit, les grossistes et les pharmaciens pourraient connaître des périodes où leurs stocks seront plus faibles, prévient Pfizer Canada. Pour Sylvia Lebrun, une résidente de Magog hyper allergique aux fruits de mer, la conséquence est un œdème de la glotte, c'est-à-dire que la glotte gonfle et l'air ne passe plus. Cette pénurie est impensable. Ma prescription médicale est de 2 auto-injecteurs et ma pharmacie me fournit seulement un épipène. Le pharmacien m'a même dit que certains patients ne pouvaient pas s'en procurer, se désole Mme Lebrun, pour qui c'est un non-sens que la seule compagnie qui produit les auto-injecteurs épipènes ne soit pas en mesure de fournir un stock suffisant pour protéger la population d'une réaction mortelle dans certains cas. Lorsque votre allergologue vous dit « Madame, ne vous éloignez pas à plus de 20 minutes d'un hôpital parce que l'effet d'un auto-injecteur est de 20 minutes », c'est sérieux, illustre Mme Lebrun, pour qui l'insécurité plane en tout temps. Au resto, à un repas chez des amis, en voyage. Ce n'est pas seulement de ne pas manger de fruits de mer, mais il faut aussi prévoir les relations croisées. Grilles et ustensiles de cuisson, huile de friture, souligne-t-elle. Le pharmacien Sébastien Sam du Family Prix de la rue Saint-Patrice-Est à Magog confirme que l'approvisionnement en auto-injecteurs épipènes est difficile. Par pharmacie, on peut seulement commander un auto-injecteur par jour. Pour certaines pharmacies, ça peut être suffisant, mais pas pour nous qui avons un gros débit. Parfois, on n'arrive même pas à en commander et on peut se retrouver avec aucun auto-injecteur en stock, Donc, il nous faut limiter les quantités aux patients, témoigne le pharmacien qui a très hâte que le problème soit réglé. Chez Pfizer Canada, on indique que bien que les stocks soient distribués sur le marché canadien chaque mois, nous ne pouvons confirmer à l'heure actuelle le moment où l'approvisionnement reprendra son cours normal. Ces restrictions d'approvisionnement qui devaient être résolues le 31 mai sont causées par des retards à l'usine de fabrication et par les quantités limitées d'une composante du produit fournie par un tiers, explique une porte-parole de la compagnie pharmaceutique Christina Antoniou. Dans le quotidien, le maire de Robertval, Sabin Côté, a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'a cependant pas comparu au palais de justice de Robertval. Joint par le quotidien, M. Côté a confirmé son arrestation tout en rappelant que le doute raisonnable est applicable en la matière et qu'il n'était pas en fonction au moment des événements. Il n'a pas voulu commenter davantage l'affaire. Une exclusivité dans la tribune, Marie-Christine Bouchard, un acte d'héroïsme. Les collègues d'un infirmier en psychiatrie à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke ne sont pas avares de commentaires positifs lorsqu'il est question de l'intervention de l'infirmier Stéphane Caron, nom fictif qui a sauvé la vie d'un patient qui venait de casser une fenêtre et qui voulait se jeter en bas du 8e étage. L'infirmier en psychiatrie était à son poste de soir le lundi 18 juin lorsqu'il a entendu sonner une pagette de l'équipe Code Blanc, cette équipe qui intervient lorsqu'un patient doit être maîtrisé physiquement. Même s'il n'est pas membre de cette équipe, il savait qu'elle était en sous-effectif ce soir-là et il a décidé de descendre prêter main-forte à ses collègues. La scène était effroyable. Le patient avait cassé la patte d'une table et s'en servait en la brandissant pour maintenir le personnel à distance. Il avait réussi à casser la vitre et il voulait sauter en bas, soutient Stéphane Caron. Les accès de violence font partie de certaines pathologies en santé mentale. Malgré la prévention, ce genre d'incident peut survenir, dit Gaëlle Simon, coordonnatrice en service intra-hospitalier en santé mentale et dépendance au CIU3S de l'Estrie-CHUS. Pour les employés, cette scène a toutefois atteint des sommets inégalés. La situation était chaotique, il y avait de la vitre partout, de la vitre cassée partout, il y avait une patiente qui pleurait, le patient nous menaçait avec la patte dont les quatre côtés étaient pointus. Plus loin, j'entendais des gens crier d'appeler la police. C'était une situation anormale, une coche au-dessus de celle que peuvent gérer les équipes du Code Blanc normalement, soutient l'infirmier qui n'a pas voulu se nommer pour ne pas attirer les projecteurs sur lui. L'infirmier a réussi à prendre contact avec le patient pour tenter de le pacifier. Alors qu'il n'était qu'à quelques pieds du bâton, le patient a finalement baissé les yeux. J'ai pu le maîtriser à partir de ce moment-là sans devoir l'étendre par terre dans la vitre. On a retrouvé le contrôle et le retour au calme s'est fait dans l'ordre, ajoute M. Caron. Mais l'équipe a été secouée, Stéphane Caron, le premier. Quand un patient qui n'est plus en contrôle te menace en agitant une patte de table pointue, c'est certain que ça fait peur. Cette intervention était d'une intensité peu commune. Dès le lendemain, la direction a fait un suivi auprès de l'équipe où s'est passé l'incident. Mais l'infirmier n'a pas été rencontré étant donné qu'il venait d'une autre unité. Du côté de la direction du CIU3S de l'Estrie-CHUS, l'incident a été pris au sérieux. Des suivis ont été faits dès le lendemain.